France Culture, l'esprit public, Astrid de Villaine.
L'esprit public, Astrid de Villaine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la 28e saison de l'Esprit Public. Je suis très heureuse de reprendre cette émission emblématique de France Culture qui revient sur la semaine écoulée pour mettre en perspective l'actualité avec des intellectuels et sur le ton de la conversation. J'adresse un salut amical à tous ceux qui m'ont précédé à ce micro, Philippe Meyer, Émilie Aubry, Patrick Cohen et Hervé Gardette. Cette émission est préparée par Anne-Claire Bazin, à la réalisation Souad Boukorsa.
Un danger immédiat pèse sur nous, auquel nous devons faire face. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au président de la République de convoquer le Parlement en session extraordinaire le lundi 8 septembre. J'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement sur une déclaration de politique générale conformément à l'article 49, alinéa 1er de notre Constitution.
Un coup de tonnerre politique. Lundi 25 août, le Premier ministre François Bayrou surprend son monde et accélère. Il avance de plus de 15 jours la rentrée parlementaire et remet à la surprise générale son poste en jeu par un vote de confiance le 8 septembre. Suicide politique, coup pour la suite ou appel à la responsabilité, rien ne l'y obligeait et aucun Premier ministre n'est jusqu'alors tombé sur un tel article. Déstabilisation du régime déjà percuté depuis un an par la dissolution, alerte sur les marchés financiers et un budget 2026 plus incertain que jamais. Ajoutez à ce mélange une colère sociale qui se profile sur plusieurs fronts, dont le mouvement du 10 septembre qui menace de tout bloquer et l'intersyndicale mobilisée le 18. Que se passe-t-il en France? La crise politique et budgétaire met le régime en tension. C'est le titre de cette émission et nous avons une heure pour en parler avec nos quatre invités. J'ai le plaisir d'accueillir pour cette première Blanche Le Ridon. Bonjour.
Bonjour.
Merci à vous d'être là. Vous êtes directrice éditoriale de l'Institut Montaigne. Juste à côté de vous, un constitutionnaliste. Bonjour Julien Jeannet.
Bonjour Astrid de Villaine.
Merci d'être là. Professeur de droit public à l'Université de Strasbourg. Et en face de vous, deux économistes. Éric Heyer, bonjour.
Bonjour.
Économiste, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et Natacha Valla, une habituée de l'esprit public. Bonjour à vous.
Bonjour Astrid.
Économiste, doyenne de l'école du management à Sciences Po, et puis vous avez été, ça va nous servir pour cette discussion, économiste à la Banque Centrale Européenne, la BCE, et consultante pour le FMI, le Fonds Monétaire International. Alors, première question qui s'adresse à tous les quatre, comment les uns et les autres avez-vous reçu cette annonce de François Bayrou lundi, et que pouvez-vous nous en dire avec une semaine de recul? Blanche Le Ridon.
Alors moi, ma tendance naturelle, en toute première réaction, c'est-à-dire immédiatement au moment où je reçois la nouvelle, c'est plutôt d'aller vers la recherche de rationalité et une certaine forme d'optimisme qui, je le reconnais dans la période actuelle, est à la limite du pathologique. Et donc je me suis dit, tiens, est-ce que François Bayrou ne franchit pas une étape supplémentaire dans la parlementarisation du régime? Parce que que fait-il, et vous l'avez très justement dit, il fait ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'a fait depuis Jean Castex en 2020. C'est-à-dire qu'il demande la confiance au Parlement et donc il tend en quelque sorte la main vers eux. Et donc peut-être qu'on n'arrête pas de dire que depuis la dissolution, il faut aller vers davantage de parlementarisation, de compromis. Et peut-être que là, il y avait une étape qui était franchie. Mais disons que cette analyse, elle a survécu à peu près une demi-heure et que le recul aidant et la réflexion ayant pu être menée depuis une semaine, moi, ce que j'y vois, c'est peut-être un Premier ministre qui a cherché à faire du Pierre Mendès France en 1954 pour éviter à tout prix d'obtenir du Michel Barnier en 2024 et qui finalement risque d'avoir le sort d'un éphémère président de la 4e République finissante. Je m'explique. Le Premier ministre cite nommément Pierre Mendès France très régulièrement et on peut penser effectivement à 1954 où il avait été rappelé par le président de la République René Coty pour venir résoudre la crise de la guerre d'Indochine. Il avait fait ce geste très courageux et singulier devant les parlementaires à l'époque. Il avait dit « Je vous demande la confiance, mais uniquement pour 4 semaines. » C'est-à-dire que si dans 4 semaines, je n'ai pas réussi à obtenir le cessez-le-feu en Indochine, je remets ma démission au président de la République. Donc il y avait un objet très clair, une priorité pour le pays et la demande d'union, un petit peu d'union sacrée autour d'un enjeu. Donc peut-être que Bayrou, qui cite très régulièrement Mendès, avait cette idée-là en tête. Et encore une fois, pour éviter d'avoir le sort de connaître le sort de Michel Barnier, qui, on le rappelle, en décembre de l'année dernière, était tombé suite à une motion de censure déposée sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Sauf que là, ce qui se dessine, c'est davantage une fin, je le disais, comme un président du Conseil de la 4e République. J'en ai même trouvé un pour lequel la comparaison était pertinente, qui s'appelait René Meyer et qui est tombé après avoir été au gouvernement entre janvier et juin 1953 et qui précisément voulait des pouvoirs spéciaux pour résoudre les causes permanentes de l'augmentation des dépenses publiques et qui était tombé. Et c'est, il me semble, le dessin un petit peu inéluctable qui s'annonce pour François Bayrou.
Julien Jeannet.
Alors sur ce point, la comparaison avec Pierre Mendès-France me paraît à moi aussi quelque peu étonnante. En effet, sans même parler des qualités respectives de ces deux hommes, dans des conjonctures évidemment différentes, on peut noter un certain nombre de différences. Tout d'abord le fait que, évidemment, lorsque François Bayrou est nommé Premier ministre, il force la main du président de la République, là où Pierre Mendès-France était un jeune député radical, perçu comme brillant, compétent, auquel on a fait appel pour résoudre la crise en Indochine. François Bayrou prépare sa chute, là où Mendès-France, en février 1955, tombe sur un débat sur l'Afrique du Nord, sans l'avoir voulu ou sans l'avoir provoqué en tant que tel. Et puis surtout, François Bayrou part finalement sans avoir adopté budget, sans réforme du mode de scrutin, sans réforme notable, là où, et c'est pas lui faire injure que de le dire, Pierre Mendès-France avait quand même réussi en quelques mois à faire la paix en Indochine, à lancer un processus d'autonomie vers l'indépendance en Tunisie et au Maroc, et à mener d'ailleurs une politique économique tout à fait rigoureuse et intéressante. À cet égard, j'aurais pour ma part tendance à comparer Mendès-France plutôt à Henri Queuil, en 1951, président du Conseil auquel on a fait appel pour des raisons d'acceptabilité transpartisane.
François Bayrou, vous voulez dire?
Oui, Bayrou, bien sûr, pardon. J'ai dit Mendès. En considérant que Queuil est tombé aussi sur des affaires politiques et sociales. Queuil, c'était cet élu de Corrèze auquel on prête l'aphorisme selon lequel il n'est pas de problème qu'une absence de solution ne finisse par résoudre. Finalement, François Bayrou me semble plutôt s'inscrire dans son sillage à lui.
Natacha Valla.
C'est vrai que pour la circonstance actuelle, on a une grande malchance. C'est une collision de destin. La grande collision, ça va être d'un côté la dette publique française, une question de gestion à long terme, mais aussi de gestion à court terme et de processus budgétaire qui tous les ans nous revient. Alors le processus budgétaire, quand il revient dans des circonstances politiques, et ça a été très bien exposé, qui sont stables, qui exploitent à fond les possibles de la 5e République, bon, ça marche plutôt bien. Dans les circonstances actuelles, on sait qu'on a une élection présidentielle qui arrive quand même assez vite, on ne sait pas exactement quand, mais au plus tard en 2027, et que donc dans ce cadre-là, il y a beaucoup de forces politiques en présence qui ont intérêt à ce que rien ne se fasse, et rien ne se fasse sans dynamique chaotique. Donc d'une part, on a cet environnement-là, et puis d'autre part, on a quand même les grandes tendances de fond sur l'endettement de la France, sur la gestion budgétaire des finances publiques, sur la quantité des dépenses publiques. Et ça, c'est un dossier, c'est un peu une boule de neige qui tourne depuis des décennies, pour le coup, et je pense que la faute n'est à rapporter à personne en particulier. On a eu, depuis 15-20 ans, des chocs qui ont induit des augmentations par cran de dépenses publiques. On n'est jamais revenu en arrière, contrairement à la plupart de nos partenaires européens, en particulier, je pense, bon, les Allemands, c'est quand même un exemple particulier, mais je pense à l'Italie ou à l'Espagne. Nous, on est resté dans une dynamique où finalement, le jour où il faudra vraiment faire quelque chose, ça va être très douloureux. Et donc, la décision, ou en tout cas l'annonce de François Bayrou, elle se situe dans cette configuration-là, où c'est entre Charib et Silla, en fait. D'un côté, on veut du chaos, on veut de l'instabilité. De l'autre côté, il y a un impératif de décision et de grandes décisions qui arrivent. Alors, on en discutera plus tard, je pense. Quand est-ce que ça va arriver? Est-ce qu'on aurait une forte contrainte sur la capacité de la France à se refinancer? Puisqu'il faut savoir quand même que ça nous concerne tous. On finance une grande partie de la croissance française par de la dépense publique et donc par de l'emprunt. Et une bonne partie de cet emprunt-là, il est fait sur les marchés internationaux. Je n'anticipe pas sur ce débat, je sais qu'on va y venir. Mais dans ce contexte-là, on peut être pris un petit peu de panique, je ne pense pas que ce soit le cas pour M. Bayrou, mais en tout cas de désespoir, en tout cas de décision un petit peu, la décision de la dernière chance.
Éric Ayer.
Oui, moi, je pense que ça révèle quand même l'échec du 15 juillet. Le 15 juillet, le Premier ministre nous fait une annonce sur les 44 milliards, mais ça, l'annonce était déjà dans les tuyaux depuis plus d'un mois et demi, donc c'était pas ça la nouveauté. La nouveauté, c'était comment on arrive à ces 44 milliards, quelles sont les mesures pour y arriver. Et là, on voit bien que c'était un échec. C'est-à-dire que globalement, on se rend compte que les mesures proposées sont soit très floues, soit des mesures qui n'ont pas réussi à convaincre, finalement. Vous voyez, donc les jours fériés, ça a cristallisé un peu cela. Est-ce que vraiment, en France, le problème sont les jours fériés où on en aurait trop et que la durée du travail de ceux qui travaillent serait insuffisante? Bon, ça, je pense qu'on va en rediscuter. Mais il n'a pas réussi à convaincre sur les mesures. Et d'ailleurs, il reproche ensuite qu'on discute des mesures. Mais oui, mais c'est lui qui les met dans le débat public, c'était un peu normal. Et donc là, il essaie de revenir aux 44 milliards. Et donc, il essaie de dire, non, en fait, bon, allez, oublions les mesures. Mais oui, mais c'était assez intéressant, me semble-t-il, qu'on commence très tôt à la discussion. Donc, le 15 juillet, c'était plutôt une bonne, même on aurait pu commencer un tout petit peu avant. Mais là, les 44 milliards, vous voyez, sont très mal posés. Parce que, en gros, globalement, il pose la question sur est-ce que vous êtes d'accord que la situation est grave? Mais je pense que personne ne va dire non, la situation n'est pas grave. OK. Et donc, c'était plutôt quelle est la bonne méthode et est-ce qu'on va y arriver? Mais non, on ne va pas te donner la confiance sur juste cette question-là. Et donc, ouais, moi, je pense qu'il essaye de sauver son image. D'accord. Et donc, c'est un suicide pas politique. Il fait harakiri à toute son équipe, mais lui essaye de sauver son image. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut lire pour le coup d'après, sans doute, vouloir encore avoir un avenir politique.
Julien Jeannet.
Alors à cet égard, sans sonder les âmes, on peut s'interroger sur les mobiles qui ont pu pousser François Bayrou à prendre cette décision de prime abord un peu étrange d'un point de vue institutionnel et constitutionnel. On peut faire un certain nombre d'hypothèses. La première, c'est la crainte de la motion de censure. L'idée de se dire que de toute façon, une motion de censure allait arriver, que mieux valait arracher le sparadrap tout de suite qu'une usure lente. C'est Paul Valéry, un mal vif et bien terminé vaut mieux qu'un supplice dormant. Et qu'à cet égard, on peut considérer qu'il a fait un choix qui était rationnel. Il y a une deuxième hypothèse qui est la stratégie de l'électrochoc. L'idée consistant à dire que Bayrou pense quand même, quoi qu'il en dise, à 2027 et que l'idée consistant à dire « après moi le déluge, j'ai été le dernier à vous dire que j'avais le sérieux budgétaire et avant de partir, je vous laisse la France et je sais que ça va, que la catastrophe arrive mais je serai là en 2027, vous pourrez faire appel à moi comme un sauveur dans une sorte de trajectoire post-gaulienne, on viendra me chercher pour sauver la France ». C'est quelque chose qui me paraît un raisonnement dangereux en général, en particulier dans le cas de François Bayrou. Je pense que François Bayrou n'est pas non plus, puisqu'on faisait des comparaisons historiques, le général de Gaulle, dans l'image des Français en tout cas, et en général. Et le fait de penser à 2027 est un élément qui me paraît à cet égard potentiellement mal pris par les Français. Je veux dire, les Français sont suffisamment confrontés à des difficultés aujourd'hui pour se dire que le fait que François Bayrou fasse une stratégie de ce type-là, en réalité, soit propre à justifier qu'il le rejette dans quelques mois ou dans deux ans. Et puis il y a un dernier élément qui est quand même la possibilité que François Bayrou se soit dit qu'il allait renvoyer la patate chaude au président de la République, c'est-à-dire l'idée de dire je renvoie le président de la République à ses responsabilités, il lui reviendra de faire des choix cruciaux, dissoudre ou pas dissoudre, choisir un Premier ministre lequel, comment lui confier le soin d'essayer de créer une coalition. Toutes ces questions-là sont évidemment des questions tout à fait importantes.
Blanche, un mot effectivement sur le rôle du président de la République. Moi, un des éléments qui m'a marqué aussi, c'est l'espèce d'analogie entre cette annonce et l'annonce de la dissolution. Le même effet de surprise volontairement suscité, la même rhétorique aussi entre « c'est moi ou le chaos ». Ça qui est quelque chose qu'on retrouve très très souvent dans la bouche du président de la République. L'appel à la clarification, parce que ça aussi, c'est un terme que le Premier ministre a utilisé pour justifier le vote de confiance qu'il allait solliciter devant les parlementaires. Et puis aussi une certaine forme de mépris, pardon, à l'égard de l'ensemble des forces politiques, y compris de celles qui sont supposées le soutenir, puisque si j'en crois les différents papiers qu'on a pu lire depuis, il en a informé quelques heures à peine, y compris les membres de sa majorité ou minorité. Donc c'est vrai qu'il y avait quand même une empreinte macronienne assez étonnante, je trouve, dans l'annonce de la semaine dernière.
Allez-y, Natacha Valla.
Alors, peut-être que si on voulait voir quelque chose de positif dans l'effet que ça a pu avoir ces 8 derniers jours, c'est que tout de même, ça a permis de faire émerger des propositions alternatives, parce que les propositions alternatives, on n'avait pas du tout, en particulier celles du Parti Socialiste. Alors, est-ce que ça vole, est-ce que ça vole pas, ça, on peut en débattre aussi. Mais en tout cas, voilà, quand on en arrive aux questions budgétaires, c'est toujours dans la mise en œuvre que les choses sont compliquées. On arrive à un constat finalement assez consensuel, on dépense trop par rapport aux recettes, par rapport à la croissance potentielle qu'on est capable de générer avec cette dépense publique. Et donc, il faut revenir à des métriques plus durables, plus stables dans le long terme. Et là, on a une proposition du PS. Elle vaut ce qu'elle vaut. Elle a une teinture un peu différente. Moi, je pense que ça peut, si ça pouvait nous permettre, d'ici au 8 septembre, d'avoir un enrichissement de ces choses concrètes qui sont mises sur la table pour arriver à avoir suffisamment d'économies sur un horizon qui soit satisfaisant, ce serait plutôt pas mal.
Le Parti Socialiste, en effet, qui était réuni à Blois ce week-end pour son université de rentrée, qui se propose de gouverner. Est-ce que c'est un choix possible pour Emmanuel Macron? Vous allez nous le dire. Mais surtout, qui en effet propose une autre trajectoire. Vous venez de le dire, Natacha Valla, 21,7 milliards d'euros de réduction des déficits au lieu des 44 milliards de François Bayrou, dont 14 milliards d'économies qui taxeraient les très hauts revenus, c'est la fameuse taxe Zucman, tout en suspendant la réforme des retraites. Est-ce que c'est vraiment viable, Éric Heyer? Et est-ce que dans ce cas, ce que nous a dit François Bayrou à plusieurs reprises, vous le rappeliez le 15 juillet et encore la semaine dernière, nous ne nous en sortirons pas si nous ne faisons pas ces économies, qui faut-il croire?
D'abord, une petite réaction à ce que vient de dire Natacha Valla. Je ne suis pas sûr que ce soit le discours de François Bayrou en disant sur le vote de confiance qui fait émerger cette proposition du PS qui était déjà dans les tuyaux et ils avaient déjà programmé une présentation, même s'il n'y avait pas eu cette décision de François Bayrou. Donc c'est effectivement une bonne chose que ça soit fait, mais c'est pas lié, me semble-t-il, au discours de
François Bayrou. Le débat budgétaire, elle est arrivée quoi qu'il arrive.
Bien entendu, et on ne fait pas d'ailleurs une proposition en une semaine. Non, c'était déjà en work in progress. Non, et pour répondre à votre question, vous voyez, moi je ne sais pas dire ce qu'il faut faire exactement. Je sais, je connais les traités. Et donc, vous voyez, ce que nous a proposé la Commission européenne, et ce que le gouvernement a proposé à la Commission européenne, c'est un plan sur 5 ans et faire 120 milliards d'euros d'économies sur 5 ans. Donc, vous voyez, c'est ça les efforts qu'on nous demande. 120 sur 5 ans. Alors, vous pouvez faire, vous voyez, un calcul très simple. 120 divisé par 5, ça vous fait à peu près 24-25. Donc, oui, alors, vous voyez, pour répondre une première fois à votre question, est-ce que les 21 proposés correspondent à peu près? Oui, on va dire, peu ou prou. C'est dans ce que nous demande la Commission européenne. Vous voyez, si vous voulez être un peu plus précis, nous demande de faire à minima, 0,5 point de PIB chaque année d'effort. Un point de PIB étant 30 milliards, c'est 15 milliards minimum. Et nous, on s'est engagé d'en faire un peu plus. Et après, il ne faut pas oublier qu'il y a le 2027 qui arrive. En 2027, c'est une élection présidentielle. Il est possible qu'on fasse un peu moins d'efforts au moment d'une élection présidentielle. Donc, on prenne un peu d'avance au début. Oui, c'était quelque chose d'intéressant. Donc, allez, on peut dire que globalement, ça respecte le traité, allez, peu ou prou. Donc, c'est la première façon. Ensuite, et c'était ça, me semble-t-il, le manquement dans la pédagogie du Premier ministre. Vous voyez, ça... Il pense avoir fait de la pédagogie en disant c'est la catastrophe. Vous voyez. Bon, je pense pas que ça soit la bonne pédagogie. La bonne pédagogie, c'est pourquoi on en est arrivé là. Et là, j'ai pas entendu, vous voyez, le début de l'explication. Pourquoi, alors qu'on est en période de non-récession, on a un déficit d'un pays en récession? Pourquoi les autres pays font mieux que nous? Ça, j'ai pas entendu l'explication, la pédagogie de pourquoi on s'est trompé. Ça fait quand même depuis 2017 qu'il y a une majorité, que François Bayrou fait partie de cette majorité et est l'un des principaux conseillers du Premier ministre. Pourquoi, alors qu'il y avait 3% de déficit en 2017, il y en a 6% aujourd'hui? Vous voyez, c'est ça la bonne pédagogie. Et donc, effectivement, le Parti Socialiste propose quelque chose de nouveau. Alors, on peut en discuter, je pense qu'on va rentrer dans le détail. Mais vous voyez, c'était plutôt de dire, en gros, allez, je schématise, en 2017, il y a eu un énorme choc fiscal. On a essayé de baisser les impôts en disant, en baissant les impôts, ça va permettre de relancer l'activité. Et en relançant l'activité, ça va faire des recettes. Et donc, ça va s'autofinancer. Pas besoin de toucher aux dépenses publiques, ça va s'autofinancer. Bon, ça marche pas. D'accord. Et donc là, vous avez deux solutions. Soit vous dites, il faut maintenant baisser la dépense, qu'on aurait dû baisser en 2017. Soit vous dites, on va remettre une partie des impôts qu'on a enlevés, parce que finalement, ça n'a pas permis de relancer l'activité. On a une croissance économique qui est allée à peu près dans la moyenne des pays européens. Donc on n'a pas fait mieux. On a fait mieux que l'Allemagne, certes, mais on a fait moins bien que l'Italie, l'Espagne. Donc revenons sur cette stratégie. Mais je pense que c'est ça le bon débat. C'est voilà. Essayer de comprendre ce qui s'est passé depuis 7-8 ans et essayer de faire des propositions autour de ça.
Il y a peut-être une personne qui a donné cette analyse que vous appelez de vos voeux, Éric Heyer, c'est Emmanuel Macron, dans le JD News le 26 août. Il rappelle que la dette a augmenté de 2,3 points de PIB sous Mitterrand, de 0,9 points sous Chirac, de 5,3 pour Sarkozy et de 1,4 pour le président Hollande. Depuis 2017, nous sommes autour de 1,7 points de PIB par an avec une pandémie, le Covid, le retour de la guerre en Europe pour la première fois depuis des décennies, la guerre en Ukraine et une inflation historiquement haute en 2022-2023. Natacha Valla, ça vous convient comme explication ?
Moi, je pense qu'il faut voir ça dans le contexte global de l'évolution de la dette publique et de la dette dans son ensemble de façon générale. Il faut savoir que les pays de l'OCDE, depuis 2020, puisque c'est vraiment depuis 2020 qu'on ne comprend pas vraiment, qu'il y ait eu des effets de cliquet, qu'on n'ait pas été capable de faire revenir à un niveau de raison correct. Ils sont passés d'une émission de dette de 15 000 milliards d'euros, de dollars, à presque 25 000 milliards de dollars équivalents en valeur de dette. Donc, ce que je vous dis là, c'est qu'il y a une masse d'endettement considérable qui est là dans le monde entier et qui permet de financer l'activité économique. La France, là-dedans, elle se situe un petit peu dans une situation un peu pire que celle de ses pairs européens, mais c'est un environnement général. La différence avec les pairs européens, et c'est ce que disait Eric hier tout à l'heure, c'est qu'ils ont su avoir des mesures assez rapidement. Après le choc Covid, on est revenu en arrière. Après le choc énergétique, on est revenu en arrière. En Allemagne, en Italie, nous, on n'a pas su faire ça. On est resté sur une dynamique où j'ai donné, j'ai cranté, il y a eu un effet de cliquet. Alors, il y a peut-être une dimension très typiquement française où le Français n'accepte pas que quand on lui donne quelque chose, ce soit repris. Je ne sais pas si ce débat a eu lieu depuis 2020, mais en tout cas, ça ressemble clairement à ce diagnostic-là. Mais ce qu'il faut savoir aussi, et on y viendra sans doute, c'est que dans cet environnement d'endettement massif, qui pose un problème de stabilité financière globale qui va bien au-delà de la France, la France, petit pays qui a quand même besoin de beaucoup de s'endetter, il va falloir qu'elle sache trouver sa place sur les marchés internationaux. C'est tout ce que je voulais ajouter.
Blanche Leridan.
Très rapidement, sur cette question de la pédagogie, de la volonté de l'électrochoc, je pense que foncièrement, ça marche. On voit que réflexion et la prise en compte de l'importance de la gestion saine des finances publiques est un sujet qui a cranté dans l'opinion publique aujourd'hui. Donc là-dessus, il y a l'échec, pour moi, il est relatif, voire inexistant. Mais par contre, les Français ne font pas confiance à François Bayrou et à son gouvernement pour résoudre. Et c'est là le hiatus que le Premier ministre n'a pas réussi à résoudre. C'est que les Français, ils sont convaincus qu'il faut faire des efforts, mais ils ne font absolument pas confiance à ce Premier ministre qui a, je crois, l'un des taux de popularité les plus bas de l'histoire de la Ve République. Donc, c'est là aussi où il a peut-être réussi la moitié du chemin, à savoir la prise de conscience, mais que pour la seconde moitié, il va falloir la confier à quelqu'un d'autre.
J'allais vous en parler. Il y a un vrai paradoxe. C'est-à-dire que les Français, dans tous les sondages, sont préoccupés par cette dette, par ce niveau d'endettement, par la réduction des déficits. Et dans le même temps, ils refusent totalement le plan Bayrou. Éric Heyer.
Et moi, je pense que s'il y a une erreur depuis la crise sanitaire, c'est pas le quoi qu'il en coûte de la crise sanitaire, mais c'est plutôt la façon dont on a géré le choc énergétique. Oui. D'accord. Et donc le choc énergétique, bon, c'est exogène, ok. Les prix d'énergie augmentent, bon, ok. Donc on veut aider nos citoyens, donc nos ménages et nos entreprises à passer cette mauvaise passe. Tous les pays européens l'ont fait. Mais on va dire que majoritairement, les pays européens ont fait des mesures sur les revenus. Ils ont fait des chèques. Vous avez reçu un chèque de la part de l'administration pour essayer de payer une partie de votre facture énergétique. Nous, on a fait autre chose. Nous, on a fait un bouclier. D'accord. Un bouclier, c'est-à-dire qu'on a essayé de maîtriser le prix, d'accord? Mais ça veut dire que c'est l'État qui a payé directement à son fournisseur cet argent. Pourquoi? Alors on peut dire, bah c'est pareil, en gros, hein, que vous receviez un chèque ou que finalement les prix soient un peu plus bas, c'est finalement vous avez été de la même manière. Mais c'est pas pareil psychologiquement. C'est-à-dire que quand vous recevez un chèque, vous savez que vous avez été aidé. Et même on peut vous rappeler de combien vous avez été aidé. Tiens, vous avez reçu un chèque de 300 euros, je peux vous le rappeler. Un bouclier, c'est inobservable. Qui est capable de dire à quelle hauteur on a aidé les Français et combien le Français a été aidé? On peut toujours lui dire, tu sais, les prix dans les supermarchés, certes, c'était plus cher, mais si on n'avait pas mis le bouclier, ça aurait été encore plus cher. C'est trop compliqué. Donc, qu'est-ce que je veux dire à travers cela? C'est que les Français n'ont pas l'impression d'avoir été aidés pendant le bouclier énergétique. Et donc, aujourd'hui, ils sont conscients que le budget est déficitaire, qu'on est dans une situation catastrophique. On dit, mais c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai écouter. D'ailleurs, moi, j'ai eu du mal, et l'INSEE nous le rappelle, le pouvoir d'achat a baissé. Donc, moi, j'ai eu du mal pendant cette situation. Donc, viens, ne viens pas me chercher. Le Missy Gris doit être quelque part. Ça doit être les plus riches, ça doit être les retraités, ça doit être quelqu'un, mais ce n'est pas moi. Et donc, aujourd'hui, personne ne veut contribuer au remboursement. Alors que si on avait fait, comme dans les autres pays, plutôt, eh ben, un chèque, on aurait pu rappeler aux Français, mais souviens-toi, tu as été aidé de tel montant, et donc maintenant, on te demande un effort pour participer au remboursement de ces aides.
Il faut que le 10 septembre converge dans un même effort nos forces politiques rassemblées aux côtés de ceux qui sont en action, le peuple lui-même et la classe salariale. Que le 10 septembre soit un jour de blocage général, c'est-à-dire pour ceux qui concernent le salariat, que le 10 septembre ce soit la grève générale.
Vous venez d'entendre Jean-Luc Mélenchon cette semaine depuis Châteauneuf-sur-Isère où il tenait son grand discours de rentrée pour les universités de la France insoumise. Julien Jeannet, c'est ça qui arrive aussi. Et le 10 septembre, il était connu ce mouvement tout au cours de l'été. Il a pu monter sur les réseaux sociaux. François Bayrou prend de court également, deux jours avant cette mobilisation potentielle.
Alors on peut en effet imaginer qu'en fonction de ce qui se passera le 8 septembre, la manière dont se déroulera le 10 septembre évidemment changera. En réalité, il y a quelque chose d'intéressant dans ce mouvement des Nicolas qui a monté progressivement et qui se cristallisera probablement le
8 septembre. Nicolas qui paie.
C'est Nicolas qui paie.
Encore autre chose, oui. Que bloquons tout.
Absolument. C'est le fait qu'on a, et là-dessus, le parallèle avec les Gilets jaunes, à mon avis, peut être intéressant, même si on est au tout début du mouvement. Il est difficile de tirer des enseignements définitifs. Tout d'abord, on est marqué par la spontanéité individualiste du mouvement. C'est-à-dire que dans les deux cas, c'est pas des grandes centrales syndicales, c'est pas des grandes associations qui ont décidé de poser une question sociale, une question environnementale, une question de droit civique au milieu du débat. Ce sont des individus eux-mêmes qui semblent s'être organisés d'une façon qu'on a du mal à déterminer de manière précise. Et ça n'est pas non plus, pour l'instant en tout cas, un mouvement qui s'auto-organise, comme c'était le cas de mai 68. C'est-à-dire que c'était spontané, mais assez vite, il y a quand même des leaders qui ont émergé. Les Gilets jaunes, ça n'était pas le cas. Là, nous verrons si c'est le cas, mais il n'est pas certain que ça puisse être le cas. La question qui se pose dans ce cas de figure, c'est la question du mélange des genres. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'à un moment, parce que là, franchement, quand on regarde les sites Internet qui commencent à organiser tout ça, il y a un mélange de plein de choses différentes. Mais il y a aussi, donc, il y a une opposition des générations, les jeunes contre les vieux, les boomers. Il y a quand même les Français d'origine française versus les Français d'origine immigrée avec la désignation. Il y a quand même une dimension un peu raciste dans certains des propos qu'on peut trouver en ligne à cet égard. Et si on mélange tout ça, il y a un très gros risque d'ingérence étrangère. Si jamais on relit un ouvrage qui est un peu vieux de 2019, mais enfin qui a quand même toute son actualité, les ingénieurs du chaos de Giuliano d'Ampoli, eh bien on voit bien comment est-ce qu'il est tout à fait possible dans le monde contemporain, à l'aune de ce qu'on voit d'ailleurs en Europe, aux États-Unis, que un certain nombre d'ingénieurs du chaos décident depuis l'extérieur de mettre un peu d'essence sur le feu pour faire en sorte que tout ça explose, avec l'intérêt bien compris d'autres puissances potentiellement. Et ça, c'est quelque chose à quoi, à mon avis, il faut qu'on fasse attention.
Et d'ailleurs, le Quai d'Orsay, il me semble, a déjà identifié des preuves d'ingérence étrangère, alors qu'il reste minoritaire. Hein. Le mouvement, il est né, comme vous l'avez très justement dit, ces groupes sur Telegram, hein, au départ, les Essentiels notamment, et Indignons-nous, qui les ont relayés, avec effectivement des revendications extraordinairement hétéroclites, où on a un peu de souverainisme, de complotisme, de l'extrême droite, de la gauche radicale, ce qui fait que c'est pour le moment... Et je crois que c'est Sophie Binet qui utilisait le mot nébuleuse pour le qualifier. C'est plutôt à ça à quoi on a à faire. Moi, je trouve intéressant la question de la superposition, de l'accumulation des crises. C'est-à-dire, les crises, elles peuvent effectivement s'auto-alimenter, se nourrir, et on conçoit qu'une crise politique puisse aggraver une potentielle crise économique, si le terme est le bon. Mais je crois que les crises, elles peuvent se neutraliser entre elles aussi. Et là, peut-être cette crise sociale, parce qu'on n'est pas encore vraiment dedans, en tout cas ces prémices et cet appel à la mobilisation générale du 10 septembre, elle pourrait effectivement être un peu marginalisée du fait de la crise politique qui s'annonce à partir du 8 septembre. Et puis, il y a une autre crise dont on n'a pas encore parlé depuis le début de cette émission, qui est la permacrise géopolitique et internationale. Il y a quand même un élément de calendrier qui, moi, me surprend beaucoup, qu'on évoque assez peu. Le 9 septembre, donc le lendemain du vote de confiance, s'ouvre à l'ONU à New York, la 80e Assemblée Générale de l'Organisation de l'ONU. Et on sait à quel point le président de la République lui-même veut jouer un rôle rôle important dans cette séquence autour de la reconnaissance d'un État palestinien. Et là, on a un peu l'impression, moi je revis, le syndrome à la fois JO, puis le syndrome, souvenez-vous-en, en décembre de l'année dernière, réouverture de Notre-Dame de Paris, où à la veille d'un événement international de très grande ampleur au sein duquel le président de la République veut jouer un rôle majeur, eh ben vous avez une crise politique nationale qui vient un tout petit peu ternir l'image et le prestige que le président de la République veut s'attribuer à ce moment-là. Et je crois qu'il faut bien avoir en tête aussi la crise en Ukraine qui se poursuit, la guerre à Gaza et tous ces éléments-là qui peuvent aussi venir, entre guillemets, concurrencer une crise sociale qui, pour le moment, est plutôt une nébuleuse née sur des groupes très hétérogènes sur les réseaux sociaux.
Alors qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, juste avant cette annonce fracassante de son Premier ministre, disait par tous vouloir se consacrer à l'international.
Exactement. Mmh.
Natacha Valla.
Et c'est vrai que c'est symptomatique de l'époque, tout de même. On a des chocs internationaux, des circonstances internationales vraiment extrêmes qui changent la donne et qui sont à la fois des symptômes, mais en fait des facteurs causaux sur le nouvel ordre mondial qui émerge. Je pense que malgré tout, au niveau de la crise, micro-crise politique au niveau français, il y a la question d'équité qu'Éric Heyer mentionnait tout à l'heure. C'est vrai que le sentiment de justice, injustice, pourquoi moi, pourquoi pas les autres, etc. La question du dialogue social, je pense qu'on ne l'a pas encore évoqué, mais c'est un peu le talon d'Achille de la France quand même. On sait que le dialogue social, ça doit être en principe un vecteur d'échange d'idées, un vecteur de négociation. Ça ne l'est pas du tout, et là, en l'occurrence, ça ne l'a pas du tout été non plus. Il manque aussi un narratif macroéconomique, parce que finalement, dans tous les scénarios qu'on a posés, il n'y a rien qui nous dit, voilà le projet, voilà la vision, voilà ce qui va nous faire la croissance de demain, voilà ce qui va nous rendre la stabilité demain. On discute de bout de chandelle, et il n'y a pas de cohérence générale. Et je pense que les Français, ça a été évoqué tout à l'heure, tout le monde est assez logiquement mobilisé. Ça fait longtemps qu'on parle de la dette trop élevée, etc. Donc tout le monde sent que c'est un problème et ne peut plus éluder le fait que ce soit un problème. Mais on donne pas de clé de lecture d'ensemble sur un projet auquel on pourrait adhérer.
Éric Heyer.
Non, mais c'est certain. Peut-être que c'était ça, la lueur d'espoir quand François Bayrou a été nommé à Matignon. Il sortait tout de même de... Allez, ma mémoire est peut-être pas très bonne. 4-5 ans à la tête du Haut Commissariat au Plan. Vous voyez, quand vous êtes à la tête du Haut Commissariat au Plan, ce qu'on vous demande, c'est de voir à long terme. C'est-à-dire, quels sont les véritables problèmes de l'économie française et trouver des solutions pour essayer de donner une nouvelle voix à ce que vient de dire Natacha Valla. C'est quoi la France de demain? Et ce haut commissaire au plan nous parle que d'une chose, c'est la dette publique et la dette publique et encore la dette publique, sans parler de la transition écologique, sans parler de l'innovation, sans parler d'éducation, sans parler des principaux enjeux, alors que les autres pays, d'accord, dans le même temps, investissent, nous font de la guerre commerciale. On peut critiquer tout cela, on peut dire, mais il y a des vraies stratégies. Et donc, c'est vrai que finalement, le discours de dire il y aura du sang et des larmes et uniquement ce discours-là, si vous l'avez pas bien compris, vous savez que c'est grave, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres enjeux? Et finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté des véritables enjeux qui sont multiples aujourd'hui? On aimerait, justement, entendre aussi un Premier ministre nous dire, bien sûr qu'il y a le problème budgétaire, c'est grave, d'accord, mais ce n'est pas catastrophique, on va trouver des solutions et on va essayer d'y arriver sans remettre en cause, finalement, la croissance de demain, les véritables enjeux de la transition écologique, du numérique, de l'éducation, de la santé. Vous voyez, c'est pas tout pour la dette, vous voyez, il y a autre chose et ça ne fait jamais rêver de dire, allez, c'est l'austérité pendant 5 ans et rien d'autre que cela.
Est-ce que c'est ça, et là je m'adresse vraiment à tous les quatre, exactement ce que vient de décrire Éric Heyer, qui se joue aussi dans cette triple, quadruple crise, on verra bien au cours du mois de septembre, qui se déroule sous nos yeux, le fait qu'on arrive peut-être au bout d'un système économique, la fin d'un moment, un renouveau nécessaire en termes d'institutions démocratiques, et évidemment, la grande absente, je trouve, qui est la transition écologique, énergétique. Est-ce que si ce cap que vous rappeliez, Éric Heyer, était celui-ci, les Français seraient peut-être plus enclins à voir où on va et à faire des efforts? Natacha Valla.
Oui, il me semble que j'appelle de mes voeux le fait que l'Europe arrive, alors pour l'instant c'est pas du tout coordonné, ce serait plus un état de fait qu'autre chose, mais arrive quand même à garder un socle de raison par rapport à ses objectifs. On parle de l'écologie, mais ce serait écologie, innovation et transformation. Je appelle ça encore transformation. On devrait déjà en être à autre chose, mais digital, numérique, intelligence artificielle. Tout ça, ça nous porte une société où on vit mieux, une société où on croit plus, et une société où on arrive à créer de la cohésion. Donc, Ça, il me semble quand même que dans l'intention, on n'a pas renoncé à ça, c'est juste qu'on n'a pas réussi. On est en plus dans la panique du court terme et on n'a pas réussi à faire en sorte de dire voilà, ces questions budgétaires, elles se présentent à nous comme elles se présentent à beaucoup, on va les régler, on va les respecter, mais on garde le cap et avec ces efforts, on va être capable, nous Europe, de garder un projet, oui, avec un modèle social, oui, avec une armée plus dotée et mieux articulée entre nous, mais qu'on arrive à conserver ces caps. Mon Dieu, on parle quand même de pays qui ont des stocks de richesses, que ce soit des richesses matérielles, financières, culturelles, éducationnelles, qui sont massives et encore parmi les meilleures du monde. Avec ça, on a de quoi aller de l'avant, même si on dépense moins, et il faut le dire, dans les dépenses de santé, dans les dépenses de retraite, dans les niches fiscales, etc. Donc ça, effectivement, renverser autour de quelque chose qui me semble quand même encore très européen, et j'ai envie d'être optimiste là-dessus.
Blanche Loridan. C'est un petit peu ce que fait Friedrich Merz en Allemagne. Mais lui, il a le bénéfice du début du mandat. Et c'est vrai que tout le problème aujourd'hui, c'est un problème de temporalité et de calendrier. Et qu'à mesure qu'on va se rapprocher de l'élection présidentielle, ça va être très compliqué.
Et de la marge de manœuvre budgétaire.
Enfin, la dette, c'est exactement ce que j'allais dire. Exactement, mais 62,5% la dette allemande contre 115% du PIB. Pour la France, il faudra nous expliquer comment on arrive à ce différentiel. Blanche Loridan, Institut Montaigne.
Absolument. Et c'est vrai qu'il y a effectivement tout un récit qu'on peut essayer de construire, qui ressemble d'ailleurs un petit peu au récit pendant la guerre froide, où on disait l'effort de réarmement il bénéficie aussi au secteur civil, et toutes les avancées qu'on peut faire dans les domaines de la technologie, de l'innovation, c'est autant d'avancées qui bénéficieront ensuite à la société tout entière. Donc il peut y avoir un récit, y compris dans un contexte sécuritaire extrêmement troublé comme celui du moment, qui porte et qui permettrait aux Européens et a fortiori aux Français de se projeter, mais qui est très compliqué. Alors, ce débat-là, il va falloir l'avoir, mais dans le cadre de la campagne présidentielle. Et c'est vrai que le camp du président de la République est très affaibli, que sa légitimité est très entachée aujourd'hui, mais qu'il faut qu'on arrive, effectivement. Et moi, je suis comme vous, je trouve qu'il y a des première raison d'espérer. Là, on voit qu'il y a les leçons qui ont été retenues de la dissolution et de la campagne éclair qui a été menée l'année dernière, puisqu'on voit qu'on a un parti socialiste qui a travaillé, qui a son programme à lui, avec des chiffrages, un programme budgétaire. Chacun travaille, et donc j'espère qu'il y aura de vrais débats de fond sur les grands sujets qu'a évoqué Éric Ayer à l'instant, l'annonce d'une présidentielle qui, a priori, devrait se tenir en 2027 et pas avant.
France Culture, l'esprit public, Astrid de Villene.
Sommes-nous condamnés à la faillite collective et au déclassement? Quand la fierté et le génie français, quand la furia francese vont-ils se réveiller? Une France à la traîne, une France qui déprime, qui se déchire, se recroqueville, une France dont la voix dans le monde est assourdie. Non, ça n'est pas la France que nous voulons. Je vois bien l'incompréhension et même l'exaspération qui gagne dans nos rangs devant des débats publics en total décalage avec ces cruelles réalités. Devant la naïveté et les petits calculs de ceux qui pensent que nous pourrions attendre 2027 avant d'agir, comme si nos compétiteurs étrangers, eux, allaient nous attendre poliment, comme si les élections de 2027 nous garantissaient une solution. Ceux qui croient pouvoir jouer avec l'économie nous font à tous prendre un risque énorme. Dans quel état serait la France qu'ils aspirent à gouverner?
L'avertissement du président du MEDEF, Patrick Martin, c'était le mercredi 27 août, en ouverture de son discours pour la rencontre des entrepreneurs de France, la REF. Pardonnez-moi, je vous ai coupé, Julien Jeannet, je vais vous donner la parole dans un instant, mais je trouvais que ça répondait très bien à ce que vient de nous dire Blanche Loridan de l'Institut Montaigne, c'est-à-dire que les entrepreneurs, les économistes, vous allez nous dire, la vie du pays, elle ne peut pas attendre 2 ans potentiellement.
Il y a un lien très fort à cet égard entre cette incertitude-là que dénonce le patron du MEDEF et la situation politique et institutionnelle. Et on a, j'ai l'impression, de vivre un peu ce film de 1993 avec Bill Murray, Un jour sans fin. On a l'impression de revivre exactement les débats, enfin, du point de vue du droit constitutionnel que nous avons eu l'été dernier en 2024. Pouvons-nous avoir un budget ou pas? Quelles sont les modalités constitutionnelles permettant d'essayer de forcer l'adoption d'un budget en dépit de l'absence de majorité claire à l'Assemblée? Est-ce que finalement on va aller contre la volonté des députés pour imposer un budget? Est-ce que le budget sera possible avant le 31 décembre? Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas de budget le 31 décembre? Ce qui s'est passé en 2024, le 12e provisoire en janvier, etc. Toutes ces questions-là, on s'était posé ces questions il y a un an en détail et on a l'impression qu'on replonge là-dedans. Et alors, c'est pas ma spécialité, moi je suis juriste, pas économiste, mais j'imagine que du point de vue des investisseurs, des partenaires de la France, cette incertitude-là est absolument catastrophique. C'est-à-dire qu'elle ajoute encore des difficultés à ce que nous décrivons ici.
Éric Heyer va vous répondre, j'imagine, mais d'un mot, justement, si on reste bien sur le parcours institutionnel du budget. Parce que vous l'avez très bien rappelé, Michel Barnier tombe au mois de décembre dernier, mais une loi spéciale, on en a beaucoup parlé l'année dernière, est adoptée pour que les fonctionnaires puissent être payés, que le minimum soit fait et que le budget de l'année d'avant soit reconduit. Cette année, est-ce que vraiment on peut s'attendre à ça? Est-ce que finalement les parlementaires, à quelques mois des municipales, vont se dire « oui, oui, je vote cette loi spéciale »
Alors tout dépend beaucoup évidemment du choix qui sera fait par Emmanuel Macron, après l'éventuelle chute du gouvernement Barnier. C'est-à-dire que de deux choses l'une, soit il décide de dissoudre, alors imaginons qu'il prononce la dissolution le lendemain de la chute du gouvernement Barnier, donc ça serait le 9 septembre, ça nous donne à peu près, en 2024, la dissolution était le 9 juin, et on avait une Assemblée nationale élue au second tour le 10 juillet. Donc on aurait, en gros, à vue de nez, une Assemblée nationale élue le 10 octobre, donc ça permettrait quand même de lancer un peu ric-rac une discussion sur un budget. Est-ce que ça marcherait, j'en sais rien.
En sachant que le 7 octobre est la date limite pour déposer un budget à l'Assemblée nationale, normalement, puisque Michel Barnier lui-même avait eu droit à 10 jours de répit.
Oui, alors en pratique, si jamais, alors certes, en effet, la Constitution et la loi, la LOLF, sur les finances publiques prévoient le premier mardi, alors je crois que c'est même le 1er octobre peut-être ou le 7, mais enfin, peu importe, la question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe si le projet de loi est déposé après cette date-là, mais enfin, si le projet de loi est déposé après cette date-là, qu'il y a une vraie discussion, qu'un budget est adopté et que le Conseil constitutionnel se prononce à la fin du mois de décembre, je n'imagine pas le Conseil constitutionnel annuler l'intégralité du budget à cause du fait que, à l'articulation de la dissolution de l'article 12 et de ses exigences budgétaires et constitutionnelles, eh bien, on est déposé un peu trop tard le projet de loi.
Éric Heyer, je vois des mots autour de la table. On va faire circuler la parole.
Non, mais il y a eu plein de choses sur lesquelles j'aurais souhaité réagir. Alors d'abord, une loi spéciale, peut-être qu'on ira droit. L'avantage d'être passé par là, c'est qu'on n'aura pas le discours. Vous voyez, le discours, c'était attention avec une loi spéciale, les cartes vitales ne marchent pas. Enfin, bon, on va éviter un peu tous ces discours qui sont en fait nocifs. C'est-à-dire qu'on en a un peu ras-le-bol d'entendre, allez, c'est la fin du monde et en fait, hop, la fin du monde n'arrive pas. Et bon, ok, donc là, au moins, je pense que ce discours-là ne verra pas jour et ça, c'est plutôt une bonne chose. Non, ensuite, il y avait quand même le discours sur le décrochage de la France. C'est assez intéressant parce que quand on regarde les statistiques, mais alors, je ne parle pas d'un point de vue politique, peut-être qu'il y a un décrochage de la France dans l'influence, mais d'un point de vue économique, depuis longtemps, non, on est l'élève moyen de la zone euro. Ça, il faut quand même se le dire. Alors, habituellement, c'était les pays du Nord, l'Allemagne qui surperformaient et les pays du Sud qui décrochaient. Et là, nouveauté, c'est l'inverse. C'est les pays du Sud qui surperforment et l'Allemagne qui décroche complètement. Hein, zéro croissance depuis 5 ans. Et la France qui est toujours au milieu. Donc, on peut dire, on décroche pas, en fait. On est l'élève moyen de cette zone euro, mais on n'est jamais sur le podium. Et ça fait du mal. Vous voyez, vous êtes toujours dans le 5e, 6e position. Vous avez jamais votre moment de gloire où vous surperformez. Et s'il y a quelqu'un qui décroche, c'est la zone euro. C'est la zone euro qui décroche par rapport aux États-Unis, qui se fait rattraper par rapport à la Chine. Et ça, c'est le rapport Draghi de l'époque, c'est le rapport l'État, c'est le rapport Tirole. Tout le monde dit, c'est la zone euro qui décroche. C'est pas la France qui décroche dans la zone euro, mais puisque la France est moyenne dans la zone euro, la France décroche par rapport à l'extérieur de la zone euro. Et c'est ça qu'il va falloir mettre en place. C'est des éléments et il y a plein d'arguments et des propositions pour essayer que la zone euro ne décroche pas. Natacha Valla, on l'a déjà évoqué, mais c'est ultra important. Et dans tous ces débats-là, bien entendu que le budget est important et que la solution viendra d'Europe. Dernier point. Et après, c'est aujourd'hui, oui, il y a l'incertitude partout. Il y a l'incertitude géopolitique, il y a l'incertitude commerciale. Et il y a en plus de l'incertitude nationale. Mais au-delà de l'incertitude au niveau national, il y a une inquiétude. Aujourd'hui, c'est pas Ben voilà, il y a une incertitude politique, il y a une inquiétude sur « je sais que ça va mal » et tout le discours sur « c'est la fin de notre modèle social ben ». Aujourd'hui, les ménages se disent ben « face à cette inquiétude, j'épargne ». Et plus j'épargne, moins j'en consomme, moins il y a de carnets de commandes pour les entreprises et plus on licencie et moins on investit. Et donc, ça fait un ralentissement économique. Donc, c'est plutôt cette inquiétude qu'il va falloir aussi lever en disant « non, mais attendez, il y a des solutions ». Et donc, l'incertitude plus l'inquiétude aujourd'hui, ben, ça fait une croissance qui est assez faible.
J'ai l'impression d'entendre le discours le plus optimiste de la semaine, Éric Gaillard, parce que moi, quand je regarde les chiffres à froid, je vois quand même un podium, le podium de fin, à propos de la dette de la France, hein, 115% du PIB derrière la Grèce et l'Italie. Mmh. Et puis, quand on voit le taux d'emprunt à laquelle est depuis, encore plus depuis l'annonce de François Bayrou à laquelle on emprunte, nous, la France, on est quasiment à la toute fin de la zone euro, Natacha Valla.
Alors justement, c'est là que l'équilibre un peu précaire qui prévaut en euro, dans la zone euro, mais en Europe de façon générale, il faut faire en sorte que le comportement budgétaire de la France contribue à le préserver. Si on a des problèmes de financement de l'État français et par effet de cascade des entreprises françaises, ça sera un vrai problème potentiellement vital pour la zone euro. Donc c'est un degré de conscience, une responsabilité qu'on porte pour nous-mêmes, mais aussi pour le continent dans son entier. Et j'en viens aux questions très concrètes de budget de financement sur les marchés internationaux et qu'est-ce que ça induit et qu'est-ce que ça pourrait nous porter comme situation dans quelques semaines. On sait qu'effectivement, vous le rappeliez, on a une dette vraiment conséquente et on a nos gestionnaires publics sont quand même très versés au marché international. Ils ont refinancé beaucoup de dettes à très long terme au moment où les taux d'intérêt étaient très bas. Donc dans les années où on avait des taux d'intérêt aux alentours de zéro, on a bénéficié d'encours de dettes très importants. Ces encours-là, comme en France en plus, on emprunte à des taux fixes, les ménages tout autant que l'État, mais l'État sans doute même plus que les ménages, ces taux fixes très bas, on en bénéficie, mais le jour où il va falloir refinancer, on va effectivement faire face à ces taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Donc ça veut dire que très concrètement, dans le budget de l'État, en tout état de cause, quoi qu'il arrive et dans la situation la plus favorable, on va avoir un saut dans le poids de remboursement de la dette dans le budget qui sera très significatif, 1% au minimum de points de PIB. Donc ça, il faudra le prendre en compte. Qu'est-ce qui se passe si les marchés paniquent? Et ça, je fais référence aux citations qui ont été faites de notre ministre des Finances, par exemple, qui évoquait le FMI à Paris. C'est devenu le mythe métropolitain, ça, le FMI à Paris. Qu'est-ce que ça veut dire?
Merci de nous le préciser, on en a besoin. C'était Éric Lombard, le 26 août sur France Inter, avant de rétro-pédaler sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais aussi qu'on ait l'analyse politique là-dessus.
Alors, le pauvre Éric Lombard, tout le monde parle du FMI à Paris depuis plusieurs mois, voire même plusieurs trimestres, voire même plusieurs années. Donc, c'est un peu un idiome qui consiste à dire, voilà, la France a besoin de beaucoup de financement, elle se finance auprès de vous, moi, de nos banques et nos compagnies d'assurance essentiellement, mais elle se finance aussi beaucoup à l'étranger. Donc ça implique que la France doive faire bonne figure sur les marchés internationaux. Quand ça se passe mal, et l'Italie l'a vécu à plusieurs reprises, le Royaume-Uni l'a vécu à une forte reprise au moment du gouvernement de Liz Truss, qui n'a pas résisté d'ailleurs à l'occasion, c'est qu'un jour, quand vous allez emprunter, eh bien, il se peut que vos prêteurs, vos bailleurs disent « ben non, pas aujourd'hui ». Et donc, vous allez vouloir lever quelques milliards d'euros. Il se trouve que ces milliards d'euros, vous n'arrivez pas à les collecter. Et qu'est-ce qui se passe de façon purement, j'allais dire technique, sur le marché de la dette? Ben, le taux d'intérêt, le prix auquel on est d'accord pour vous prêter, augmente. C'est ça le risque. Alors, est-ce que ce risque-là, s'il se matérialise sur une enchère du Trésor, ça va amener le FMI à Paris? Bien sûr que non. Mais ce qui amènerait le FMI à Paris? Le FMI à Paris, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je n'arrive plus à me financer, j'ai besoin de payer les salaires des fonctionnaires, mes prestations sociales, mes investissements, parce qu'il y en a quand même encore un petit peu, il va falloir que je trouve l'argent quelque part. J'ai peut-être un petit peu de trésorerie, mais ça ne m'amène pas bien loin, donc il faut que quelqu'un vienne m'aider. Le FMI, il fait ça. Je pense qu'il faut démythifier le FMI.
On dit
le
FMI. Des mesures d'austérité.
Bien sûr. Alors, le problème,
vécu la Grèce,
c'est qu'il y a d'énormes mesures de contraintes d'austérité derrière ça. On a en Europe, avec la zone euro, la possibilité, et les possibilités sont élargies depuis une dizaine d'années, que la Banque Centrale Européenne vienne investir sur le champ et vienne prêter indirectement, mais vienne à la rescousse. On sait tout de même que les banques centrales, depuis 2021, elles se retirent du marché de la dette publique. C'est-à-dire qu'elles en détenaient à peu près un tiers, maintenant c'est 20%. Donc de façon structurelle, il ne faut plus trop compter sur elle, mais s'il y avait une crise, la BCE viendrait. Que ce soit la BCE ou le FMI, est-ce que ces bailleurs alternatifs viendraient sans condition? Bien sûr que non, et c'est une bonne nouvelle qu'ils ne viennent pas sans condition, puisqu'encore une fois, il faut qu'on arrive à un système raisonnable qui nous permette d'être juste vis-à-vis des générations futures, in fine.
Blanche Leridon, je vous donne la parole, mais je rappelle qu'on lit aussi dans la presse, sous couvert d'anonymat, des proches de François Bayrou ou du gouvernement qui nous disent finalement ce serait presque une bonne chose que le FMI vienne aider la France à redresser ses comptes. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, de l'impuissance publique, si c'est vrai?
Alors effectivement, moi je suis pas économiste, mais c'est vrai que là aussi on voit une convergence des calendriers qui est un petit peu malheureuse, puisque si il semblerait que dès le 12 septembre, l'agence Fitch doive redonner sa notation de la France. Donc là aussi, on aurait trois jours après l'hypothétique chute du gouvernement, une agence de notation qui devrait se déclarer sur la situation française. Et là, on voit, et je parlais tout à l'heure, des crises qui tantôt se neutralisent et tantôt s'auto-alimentent. Là, on serait plutôt dans la deuxième trajectoire. Mais c'est un peu désolant si ce que vous dites est avéré, c'est-à-dire de jeter le pays dans le pire pour se dire ah ben nous on préfère confier le destin du pays au FMI plutôt que de prendre les responsabilités nécessaires. Et là, ça me renvoie un petit peu au tout début de la conversation, moi, avant même l'annonce de François Bayrou, je me disais mais finalement il y a peut-être un petit espace pour que ce budget soit voté, parce que finalement ce gros effort d'assainissement des finances publiques, ben beaucoup de candidats à l'élection 2027, ils seront bien contents que quelqu'un l'ait fait avant eux et d'hériter d'une situation budgétaire et financière qui soit un tout petit peu moins dégradée qu'aujourd'hui. Et donc je me disais, il y a peut-être une petite fenêtre d'opportunité pour Bayrou, notamment dans cette année-là, parce que l'année 2026-27, à mesure qu'on va se rapprocher de la présidentielle, ce sera plus possible de le faire. Mais c'est vrai que ça aurait pu être, moi qui cherche des éléments rationnels dans la façon dont réfléchissent nos politiques, ça aurait pu être une voie possible, et il semble que ce ne le soit pas du tout.
On approche de la fin de cette émission. Julien Jeannet, est-ce qu'on en a peu parlé finalement, le régime, la fin de la Ve République, j'allais dire la fin de la Ve République, parce que je me demande si on n'est pas à ce moment-là. Est-ce qu'il est éprouvé par cette crise budgétaire et politique? Comment vous voyez les choses dans tous les outils qu'on utilise comme ça toutes les trois semaines quasiment?
De façon générale, la Ve République me semble tout à fait robuste. Comme elle l'était en 2024, elle le reste en 2025. On peut ne pas aimer les effets que produisent nos institutions, mais de fait, ça fonctionne, ça marche à peu près. Le Premier ministre va sans doute tomber en application d'une procédure constitutionnelle. Des conséquences en suivront en application de la Constitution. Tout ça fonctionne à peu près. Je ne pense pas qu'il faille, et on a tendance à le faire parfois un peu trop rapidement, jeter la pierre sur nos institutions en considérant que ce serait la faute intrinsèque de la Constitution de 1958. L'une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est la question de ce qui permettrait de faire bouger les choses dans la conjoncture actuelle, qui est évidemment extrêmement complexe d'un point de vue politique. Je note deux propositions récentes. La première a été formulée par Jean-Luc Mélenchon, qui a appelé à la destitution du président de la République. Alors évidemment, c'est une calembredaine d'un point de vue institutionnel. La destitution, prévue à l'article 68 de notre Constitution, n'est pas un mode de mise en jeu de la responsabilité politique du président de la République. Et donc, ça serait vraiment un détournement de cette mesure. Et de toute façon, on n'imagine pas les sénateurs le suivre sur ce point. Et puis Jean-François Copé, de manière plus intéressante, appeler le président de la République à une démission après les élections municipales, en disant en gros, vous devriez, monsieur le président, annoncer dès maintenant votre intention de quitter le pouvoir quelques mois après les élections municipales. Là encore, évidemment, on peut comprendre que Jean-François Copé, dans une perspective politique, défende cela, mais ça n'a absolument aucun sens du point de vue du fonctionnement des institutions. Dès l'instant où Emmanuel Macron annoncerait la fin de son mandat, il perdrait encore plus de son poids politique, notamment sur la scène internationale. Il y aurait une démonétisation de la parole présidentielle, et donc c'est ce qu'on appelle les lame duck presidents aux États-Unis, ces canards boiteux en fin de mandat, lorsque, en gros, vous connaissez le nom de votre successeur, on considère que vous n'avez plus complètement la maîtrise des pouvoirs présidentiels. Ça serait un peu ce qui se passerait. D'ailleurs, on a vu avec François Hollande, dès l'instant où il a dit son intention de ne pas se représenter à la fin de son mandat, évidemment, son autorité a décliné. Donc ces deux aspects, à mon avis, me semblent devoir être écartés.
Éric Ayard.
Je pense que ce qui a un peu changé tout de même, c'est que on est passé d'un bipartisme à un tripartisme quelque part. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de majorité aujourd'hui qui passe du côté gauche puis du côté droit. Et donc il va falloir que le centre, à un moment, s'il veut gouverner, ben fasse des compromis. Et donc c'est ce qu'on attendait de la part de François Bayrou, c'est qu'il aille discuter avec plutôt les socialistes pour essayer d'avoir un budget qui soit signé. Et donc il est là parce que je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est que tout le monde intéresse qu'un budget avec des efforts soit fait pour qu'en 2027 il y ait moins d'efforts et qu'on puisse faire des propositions pour l'avenir. Mais pour ce faire, il va falloir qu'il y ait une coalition un peu plus large. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des premiers ministres qui soient peut-être un peu plus modestes en disant je suis pas l'homme providentiel, je vais simplement essayer de faire des efforts aussi pour parler aux autres, ce que faisait à mon sens assez bien Éric Lombard, peut-être un peu moins bien le premier ministre, et donc être sans doute plus modeste et pour essayer de trouver une solution pour effectivement faire des efforts, mais des efforts qui soient compris par tout le monde. Et ça aussi, c'est un peu un problème. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui va payer l'addition. Et on devrait dire, c'est réparti. Plutôt que de parler un jour des retraités, le jour suivant des plus riches et le suivant des chômeurs, il faudrait le même jour dire voilà comment on va répartir les efforts tous ensemble.
France Culture, l'esprit public, Astrid de Villene.
Et il nous reste quelques minutes dans l'esprit public. On va introduire une petite nouveauté, si vous le voulez bien. Cette saison, quand il nous restera du temps, ce sont vos coups de cœur. Cette fois-ci, ce sera sans doute vos coups de cœur de l'été, mais ça pourrait être une recommandation pour la semaine. Quelque chose que vous avez aimé, moins aimé. La parole est totalement libre et je vous la laisse. Blanche Leridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne.
Alors déjà, je commencerai en disant que la rentrée culturelle et artistique est infiniment plus exaltante et réjouissante que ne l'est la rentrée économique et politique. Et donc, j'ai eu l'occasion de voir cette semaine un film de la rentrée. Ce film, c'est Valeurs sentimentales de Joachim Trier, qui a obtenu le grand prix au Festival de Cannes de cette année. Joachim Trier qui avait aussi réalisé un film formidable qui s'appelle Julie en 12 chapitres il y a quelques années. Et là, on retrouve son actrice principale qui est à nouveau dans ce sixième long métrage, qui est un grand film à la fois sur le cinéma, sur la famille, un grand film de sœurs aussi, qui est un sujet qui me tient très, très à cœur. Et puis avec un dispositif très intelligemment fait, puisque c'est aussi l'histoire d'une maison qui devient en quelque sorte un protagoniste et qui suit les évolutions de cette famille et du cinéma. Je n'en dis pas plus, c'est assez bouleversant, mais aussi parfois drôle. Allez le voir.
Merci Blanche Leridon. Julien Jeannet, constitutionnaliste, professeur de droit public à l'Université de Strasbourg.
J'évoquerai pour ma part un ouvrage entre le roman, l'autofiction et la fiction. Cet ouvrage a été écrit par Mathieu Niango. Il s'appelle Le Fardeau, aux éditions Mialet-Barreau. Il vient de sortir. C'est une enquête historique d'un philosophe dont le père est ivoirien, dont la mère est lorraine. Et il a appris assez tard dans sa vie le fait que sa mère était née dans l'une des pouponnières nazies, les Lebensborn, d'une mère juive hongroise et d'un père probablement officier SS. Et c'est l'histoire de la quête de ses origines à cet égard. La recherche dans les archives départementales, il essaye de tout faire. Et il nous raconte comment il a tout fait pour essayer de remonter le fil des choses. C'est un ouvrage fin, pudique et sensible qui me semble à cet égard avoir mérité toute notre attention. Mathieu Niango, Le Fardeau.
Merci à vous. Éric Ayer, économiste, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE.
Alors moi j'ai mal fait mon travail, je pensais que c'était en relation avec
mais ça
professionnel.
Peut. C'est très libre, donc, on débute.
Moi j'ai bien aimé en tout cas cet été relire alors un livre qui date il y a quelques mois de Guillaume Alleg, c'est comment verser de l'argent aux pauvres. Pourquoi c'était un livre qui est intéressant dans la collection des pubs, c'est que aujourd'hui, on voit que le taux de pauvreté n'a jamais été aussi élevé en France, 15,4 nous dit l'INSEE, jamais depuis que la statistique existe. Donc c'est une vraie question, et cette question en plus au moment où on nous dit que notre modèle social va être remis en cause. Donc je conseille à tout le monde de relire cet ouvrage, qui est un ouvrage d'un universitaire, qui est d'abord d'un point de vue de la théorie, et ensuite qui fait des propositions assez concrètes pour dire allez, comment on peut s'en sortir sans finalement dissuader les gens de repartir au travail. Et finalement c'est peut-être ça le véritable enjeu, c'est essayer de vivre tous ensemble avec un niveau de vie qui soit suffisant pour finalement assouvir l'intégralité de ses aspérités.
Merci pour ce coup de cœur. Et puis la parole est à Natacha Valla, économiste, doyenne de l'école du management à Sciences Po, pour finir.
Et moi, je vais vous donner un ouvrage ancien, puisque ça nous replonge dans les républiques précédentes et la France du XXe siècle, mais ce sera André Malraux, Les oraisons funèbres. Alors, c'est pas funèbre du tout, je trouve ça très joyeux, un style magnifique, un sens psychologique vraiment très affiné, très d'actualité. En fait, on retrouve des traits de personnalité, des traits de psychologie dans nos dirigeants d'aujourd'hui et dans nos dans notre environnement d'aujourd'hui, ça rassure d'avoir cette continuité-là. Donc c'est ce que je recommanderais.
Et moi, je vous recommande, elle est très ancienne, mais elle vaut le coup, la biographie des Badinter, du couple Badinter sur Condorcet, avec cette citation de ce grand spécialiste des finances publiques. « Le règne de la finance est fini, il faut qu'elle apprenne à être modeste. » C'était en 1775. Merci à tous les quatre d'être venus pour cette première. Natacha Valla, Éric Heyer, Julien Jeannet et Blanche Leridon. Et merci à vous tous et toutes de nous avoir suivis. On ne se retrouve pas la semaine prochaine exceptionnellement, puisque comme chaque premier dimanche de septembre, c'est la commémoration protestante de l'Assemblée du Désert. Mais dès le 14 septembre, tous les dimanches, en direct, de 11h à midi. Et bien sûr, en podcast, abonnez-vous à l'Esprit Public sur le site et l'application Radio France également. Très bel après-midi à l'écoute de France Culture.